Boulevard 102, 100% parler en semaine avec une belle programmation. Ça commence le matin à 6h avec Marceau le matin. Ça se poursuit avec le point de max de 10h à midi. On en jase midi à 14h. 14h à 18h, c'est le retour de Gravel. Et Marceau le soir de 18h à 19h. Pas besoin de vous rappeler qu'il va mouiller. Il va pleuvoir très fort aujourd'hui. C'est 16 degrés. 20 degrés avec de la pluie pour vendredi. 16 degrés avec de la pluie pour samedi. Si on est chanceux, on va sortir de la pluie en ce dimanche. Mathias, beaucoup de circulation ce midi.
Oui, je veux juste commencer avec un texto qui vient de rentrer. J'ai pas plus de détails pour l'instant, mais Kevin qui me dit « Accident, deux véhicules, voie de gauche et centre Laurentienne en direction nord en face du stade Canac qui serait justement fermé. » Donc, voie de gauche et centre. Si c'est le cas, ça va être très compliqué dans le secteur au cours des prochaines minutes. En parlant de compliqué dans le secteur, on se transporte sur la rive sud de la 20 en direction ouest. Saldé entre Taniata et Président Kennedy en ce moment. Du côté de la rive nord, capitale, direction est, c'est présentement entre Robert Bourassa et Neuvière que c'est au rouge. En direction ouest, on parle d'entre Laurentienne et ça remonte jusqu'à Henri Bourassa. Laurentienne, direction sud pour accéder à capitale. Ralentissement dans le secteur aussi. Henri IV en direction sud pour accéder justement vis-à-vis chemin Sainte-Foy. Là, il y a des travaux dans le secteur. Léger ralentissement aussi. Il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto. Mais je vous le rappelle, c'est la mauvaise température qui fait ça. Déjà du trafic, on n'est pas sur l'heure de pointe, donc préparez-vous pour un dur retour à la maison tout à l'heure.
Quand je me pose des questions sur l'économie, Mathias, puis que je lis des choses contraires, je me tourne toujours vers Gabriel Giguère, mon ami de l'Institut économique de Montréal, analyste politique senior. Puis là, m'en pose trois questions, donc on va lui adresser ces questions-là en ondes et je suis certain que ça va également éclairer nos auditeurs. Gabriel Giguère, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci de me recevoir.
Ça fait plaisir. Gabriel, première question que je me pose, parce que je lis des choses, je lis tout et son contraire avec la gestion de l'offre, OK? Moi, j'ai toujours pensé que si on enlève la gestion de l'offre, il va avoir le libre marché puis ça va me donner plus d'argent dans mes poches. Puis d'ailleurs, vous avez sorti une étude là-dessus aujourd'hui. Mais je lis la situation en Australie aussi. Dépendamment du média que je lis ça, il y en a qui me disent « Hey, ça va bénéficier justement aux particuliers, comme moi. » Puis il y en a d'autres qui disent « Hey, attention, il va falloir subventionner le système d'agriculture pour permettre aux producteurs laitiers d'être concurrentiels. » C'est qui dit vrai, Gabriel Giguère?
C'est une bonne question. En fait, ce qu'on voit, c'est que il y a plusieurs pays qui sont passés de la gestion de l'offre, ou du moins, il y a quelques pays qui sont passés de la gestion de l'offre à l'abolition de ce type de politique-là. On t'a parlé de l'Australie, on peut également penser à la Nouvelle-Zélande, hein, qui ont décidé d'abolir là, dans les années 2000-1990. Et ce qu'on a vu, c'est que ce que ça permet de faire, l'abolition de la gestion de l'offre, c'est d'abord et avant tout de redonner de l'argent dans les poches des consommateurs. Parce que la gestion de l'offre, d'abord, c'est quoi? C'est une politique que le gouvernement met de l'avant pour réduire artificiellement l'offre de lait, d'œufs, de volailles en mettant de l'avant des quotas, des tarifs également sur les importations. Quand on pense au beurre, ça peut aller jusqu'à 200-300% de tarifs. Donc, ça vient vraiment réduire le choix pour les consommateurs et ça augmente artificiellement le prix. Donc, si on abolit la gestion de l'offre, nous, en tant que consommateurs, on va payer moins cher. Mais c'est aussi pour les agriculteurs que c'est une bonne chose. Hein? On entend rarement ça, mais la réalité, notamment en Nouvelle-Zélande, c'est que depuis qu'on a aboli ça, on a été capable, auprès des agriculteurs laitiers notamment, de produire beaucoup plus parce qu'on n'avait plus un quota qui venait restreindre justement cette production-là. Et donc, ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, c'est qu'on a beaucoup augmenté la production de lait et on est devenu un grand importateur. Là, 80 à 90% du lait qui est produit en Nouvelle-Zélande est exporté. Alors, je pense qu'au Québec et au Canada, avec cette abolition-là, ça permettrait de réduire le prix pour les consommateurs et d'augmenter de beaucoup les exportations en matière laitière, mais aussi en matière de fromage. Là, on sait au Québec, on a d'excellents fromages.
Vraiment. Donc, ça permettrait à nos meilleurs d'être compétitifs sur le marché mondial puis peut-être bien de faire plus d'argent au bout de ligne.
C'est exactement ça. Puis quand on pense aux consommateurs, c'est pas négligeable. Hein? Quand on prend le Canadien moyen, c'est une différence. Quand on prend le Canadien moyen, il y a les cinq éléments principaux qui sont sous la gestion de l'offre. Le lait, le poulet, les œufs. Et, ben, ça fait en sorte que ça nous coûte en moyenne au Canada 224 $ de plus. Et ça, ce 224 $-là pour l'individu va varier en fonction de votre niveau de revenu. Autrement dit, les 20% les moins nantis, c'est des ménages souvent qui sont plus petits, évidemment, qui ont moins de sous. Donc, eux, c'est un petit peu moins de 300 $ que ça coûte par année pour un ménage du 20% les moins nantis, puis c'est plus que 1 000 $ pour les mieux nantis. Par contre, ce qui est intéressant dans l'analyse, c'est de voir que même si c'est moins d'argent pour les moins nantis, comme on a moins de sous, c'est 4 fois plus lourd à supporter pour leur portefeuille. Puis en économie, là, je dis un petit jargon, là, mais c'est régressif. Autrement dit, c'est une politique publique qui est mise de l'avant et qui fait surtout mal à ceux qui ont moins de sous, ceux à qui ça fait la différence, la pinte de lait, qui est 1 $ de moins ou 1 $ de plus. C'est peut-être la différence entre je vais l'acheter cette semaine puis je vais laisser sa tablette. Et donc, quand on va de l'avant avec une recommandation de politique publique comme ça, bien, c'est de dire c'est bon pour le consommateur, c'est bon pour l'agriculteur, puis je mets même un pas de côté, là, en 2026, c'est bon également pour les négociations de l'accord libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Donc, on gagne sur tous les fronts.
Puis, on dit, mettons qu'on dit que pour les consommateurs, c'est bon parce que, justement, ça réduit le coût. Ça, c'est logique. Les producteurs peuvent produire davantage. Est-ce qu'il y a quand même à avoir une crainte que du côté des producteurs, ce soit très bon pour les grands producteurs, mais que ce soit peut-être nocif pour les plus petits producteurs, les plus petites fermes?
Je pense que quand on ouvre à la concurrence, c'est sûr que c'est pas 100% des joueurs qui vont tirer leur épingle du jeu. Hein? C'est évident. On peut penser à d'autres secteurs agricoles, que ce soit le porc, le bœuf au Canada. Il y a des gros joueurs, il y a des joueurs qui sont capables d'augmenter leur efficience. Mais quand on met de la concurrence, quand on s'assure de ne pas venir protéger le marché, évidemment, c'est bon pour le consommateur, mais il y a également quelque chose de vertueux pour les producteurs. C'est une incitation économique à l'amélioration continue. Parce qu'à partir du moment où vous avez votre quota de gestion de l'offre pour le lait, mais là, votre pression d'amélioration, elle est moindre qu'une ouverture à la concurrence. Mm-hmm. Donc, d'abolir la gestion de l'offre serait positif en la matière. Est-ce que 100% des producteurs vont rester sur le marché? Peut-être que non. Peut-être qu'il va y avoir une réallocation des ressources. Mais je pense qu'au final, sur le plan économique, sur le plan de la consommation, on va gagner. Il faut pas oublier quelque chose aussi. La gestion de l'offre, les quotas laitiers notamment, c'est une double barrière, une barrière à l'entrée. Quand on a des jeunes qui veulent devenir agriculteurs, qui vont aller au cégep, qui vont faire leur technique, qui aspirent à avoir une ferme, bien, c'est extrêmement difficile parce que c'est très cher, plusieurs dizaines de milliers de dollars le quota pour une vache laitière. Donc, il y a un impact sur l'entrée, hein, pour l'entrée sur le marché, l'entrée pour l'achat d'une ferme, je devrais dire, au Québec et au Canada, mais il y a également une barrière pour la croissance parce qu'à partir d'un certain niveau, vous ne pouvez plus produire de lait même si vous pourriez l'exporter. Donc, ça vient vraiment restreindre l'entrée et l'expansion de nos fermes au Canada.
Ah, en effet, ça décourage déjà les jeunes entrepreneurs. Gabriel, deuxième question pour toi. On est en baisse de 31 milliards de nos exportations vers les États-Unis. Évidemment, en 2025 par rapport à 2024, c'est dû aux tarifs. C'est une baisse de 5,2%. Mais la presse m'apprenait qu'on a bondi de 17,9 milliards d'exportations vers le Royaume-Uni, 8,1 milliards vers l'Union européenne et 5,3 milliards vers les pays où on n'a pas d'accord de libre-échange, ce qui fait en sorte que la différence serait seulement une diminution de 0,15%. Est-ce que ces chiffres-là sont exacts? Parce que je me dis, crime, on est en récession technique. Il me semble que j'ai de la misère à croire à ça.
Bien, c'est super intéressant comme chiffre. Puis ce que ça vient nous dire, là, c'est très clair. C'est qu'au Canada, on a été capable d'avoir une certaine diversification. Je pense pour le Québec, là, à l'aluminium, où on en voit davantage en Union européenne. Puis ça, on le voyait en octobre 2025, hein, on avait des articles qui expliquaient que certes, on a une baisse de l'exportation aux États-Unis, mais on exporte davantage en Italie, en Pologne, aux Pays-Bas. Et donc, on contribue, là, le Québec, à cette diversification à travers les produits métalliques. Là, si
genre, ben vraiment, parce que c'est seulement 14% maintenant de notre PIB qui est lié aux exportations américaines. L'Ontario, c'est 21% et 34% pour l'Alberta. Fait qu'on s'en sort vraiment bien.
On s'en sort vraiment bien. Puis c'est sûr qu'après ça, c'est une question de produits qui est transigé. L'Alberta, c'est le gaz naturel, le pétrole.
Ouais, c'est ça.
Puis les pipelines sont là. Donc, c'est normal sur le plan économique que ça aille directement aux États-Unis. Mais même ça, là, c'est dit dans l'article, puis c'est passé un peu sous silence, même si c'est mentionné rapidement. Mais un des facteurs aussi qui a joué, si on sort un petit peu de l'Europe, puis plus vers les marchés asiatiques, c'est le pétrole. C'est avec Trans Mountain Pipeline où on a été capable d'augmenter de beaucoup notre envoi de pétrole en Chine, notamment. Puis quand on voit la mise en service d'une usine de gaz naturel liquéfié, ce qu'on constate, c'est que ça augmente les exportations en Corée du Sud, au Japon notamment. Donc, il y a vraiment des acheteurs là, pour ce type de produits-là, puis ça aide à la diversification, pas juste de ces produits-là, mais plus largement de l'ensemble des exportations canadiennes sur d'autres marchés. Donc, il y a des aspects positifs, mais un élément qu'on doit constamment garder en tête, c'est l'importance de la renégociation de l'accord libre-échange Canada-États-Unis. Parce que certes, on est en récession. On le dit, la baisse était très faible, hein, faut quand même le dire, dans le dernier trimestre. Donc, c'est une récession. Par contre, faut se rappeler que la raison pour laquelle on a été résilient comme économie, c'est parce qu'on avait cet accord de libre-échange, c'est parce qu'on avait énormément d'exceptions. Alors, il faut s'assurer d'avoir un bon accord de libre-échange et ça me permet toujours de faire le point avec le premier sujet de notre conversation. Il va falloir faire des concessions et je pense que la gestion de l'offre, maintenant qu'on sait que c'est bon pour les consommateurs et c'est bon pour une bonne partie des producteurs, ben ça serait également bon pour nos politiciens dans un rapport diplomatique de négociation.
Non, t'as entièrement raison. C'est un excellent point. Hey, Gabriel Jugab, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. On se reprend la semaine prochaine.
C'est un plaisir.
Excellent. Salut, Gab.
Bye-bye.
Gabriel Jugab, analyste senior politique pour l'Institut économique de Montréal. Courte pause, on aura Karim Elayoubi qui va venir s'installer avec nous. C'est le nouveau candidat dans Chauveau pour le Parti conservateur du Québec. Je sais qu'il y a quelques minutes de retard. Si jamais il n'est pas arrivé, on vous informera tout simplement.